L'heure de pointe, David Torchala.
Bonjour à toutes et à tous, nous voici à nouveau dans un nouveau numéro de L'heure de pointe sur Radio Présence, une émission en partenariat avec le groupe La Dépêche du Midi. Bonjour Anne Bellois.
Bonjour David.
Vous êtes chroniqueuse de l'émission.
Oui, pas de La Dépêche du Midi, mais...
On se sent un petit peu esseulé aujourd'hui,
oui.
Parce que il nous manque notre Delphine Pereira, notre journaliste. Mais c'est ça, la vie de journaliste, il faut
elle
partir.
Elle reviendra.
Eh oui, il faut aller sur l'actualité, mais elle reviendra. Tant pis pour elle, j'ai envie de dire, parce qu'elle manque de formidables invités. On le sait déjà, on va passer un bon moment, puisque nous allons parler d'un symbole emblématique de Lourdes. Ces fameuses voiturettes bleues qui sillonnent depuis des décennies, on peut le dire, les allées, les chemins du sanctuaire et permettent aux personnes malades, âgées, fatiguées ou en situation de handicap de vivre pleinement leur pèlerinage. Elles font partie du paysage de Lourdes, mais aussi de son identité humaine et spirituelle. Alors derrière ces véhicules, il y a des hospitaliers, des hommes, des femmes qui donnent de leur temps, il y a des rencontres, il y a des histoires de famille, il y a des gestes de solidarité et une attention permanente toujours portée aux personnes les plus fragiles. Mais aujourd'hui, ces voiturettes vont évoluer à l'occasion des 140 ans de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Un vaste chantier de renouvellement est lancé afin de moderniser tout le parc, quasiment 1000 véhicules. Tout ça va nous être précisé par nos invités. Je suis très heureux d'accueillir Daniel Peset. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes président de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce renouvellement de parc, on a envie de dire. Vous allez nous donner un peu plus de détails. Avec vous, nous accueillons Thomas Lecomte. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de l'entreprise Milk. Milk, c'est Made in le Coin. Made in le Coin.
Tout à fait ça.
C'est ça, une entreprise locale du département des Hautes-Pyrénées située à Labarthe de Nest. Vous êtes spécialisé dans l'industrie du vélo. Alors on verra comment vélo et voiturette bleue cohabitent pendant cette émission. Et vous êtes accompagné de Louis Daricade. Bonjour Louis.
Bonjour.
Vous êtes gestionnaire d'affaires pour l'entreprise Milk. Et donc c'est d'abord une histoire de rencontre. Daniel Peset, vous qui êtes président de l'hospitalité de Notre-Dame de Lourdes. Quand on pense à Lourdes, évidemment, on pense aux symboles, à la grotte, on pense aux processions. Et puis souvent aussi, on pense à ces fameuses voiturettes bleues. Elles font partie du paysage de Lourdes.
Ah oui, tout à fait. Elles font partie du paysage et l'icône du sanctuaire, à la fois parce qu'elles servent aux personnes handicapées, malades, fatiguées, tout. À pouvoir assister à toutes les cérémonies, les célébrations qui ont lieu dans le sanctuaire. Donc elles sont particulièrement utiles pour les personnes malades, mais elles sont aussi un symbole, c'est le symbole du service. Parce que devant la personne malade, eh bien, il y a un hospitalier, un bénévole, un scout qui va, lui, tirer cette voiture bleue et amener la personne malade. Et au-delà même du service, de la partie physique, il y a tout le contact, le lien qu'il peut y avoir pendant ce service, pendant la célébration, avant, après, etc. Donc c'est un magnifique symbole.
Un duo, un tandem, c'est ça, entre hospitalier et malade. C'est vrai qu'il s'y vit des choses sous cette capote bleue, parce que quand il... il arrive, il pleut à Lourdes, ça vous choque pas ça, des lois.
De temps en temps.
Donc on peut aussi capoter la voiture. Thomas Lecomte, vous qui êtes cofondateur de l'entreprise Milk, vous nous raconterez après comment vous êtes rencontrés, parce que l'histoire le clin d'œil est intéressant. Est-ce que vous connaissiez Lourdes? Est-ce que vous aviez déjà vu une voiturette bleue?
J'avais déjà vu des voiturettes bleues. Historiquement, j'ai fait quelques pèlerinages à Lourdes. D'habitude, c'est vrai qu'on vient plutôt à Lourdes, nous, pour le VTT de descente, qui est vraiment la chose qui nous mène ici. Et en fait, cette évolution de notre entreprise vers les solutions de mobilité, les différentes solutions de mobilité légère, nous ont amenés à nous rencontrer et à pouvoir travailler sur ce sujet des voiturettes.
Votre entreprise, c'est l'industrie du vélo.
Exact.
Expliquez-nous... quel est le...
C'est historiquement, les trois cofondateurs se sont rencontrés dans la marque de VTT qui s'appelait Sun, qui était à Saint-Gaudens, et ont fabriqué l'intégralité de nos produits à l'autre bout du monde. le jour où cette entreprise a fermé, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on remette le savoir-faire de l'industrie du vélo sur le territoire et le rapprocher de l'utilisateur final. Et c'est dans ce pari-là qu'on s'est lancé en 2013 en relocalisant une première entreprise Milk qui permettait de prototyper des vélos et des véhicules légers. Et au fur et à mesure, depuis 2013, on bascule à l'échelle industrielle pour pouvoir proposer à nos clients des solutions de fabrication locale de vélos, sachant que ça représente que 5% des vélos vendus en France.
Quand vous parlez de véhicules légers, c'est-à-dire c'est des véhicules, des vélos un peu agrandis de plusieurs roues, d'une petite, une petite charrette. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule léger dans l'industrie du vélo?
Un véhicule léger, ça va être tout ce qui se situe entre le vélo et la moto et l'auto. On travaille sur des véhicules exclusivement électriques. Ça c'est un premier point, donc musculaire ou électrique comme on le dit, on va jusqu'à faire des véhicules à deux roues, trois roues, quatre roues même, et qui ont vocation à plutôt une utilisation de mobilité du quotidien, plutôt utilitaire dirons-nous, à l'instar des vélos récréatifs, vélos de...
C'est un peu les petites charrettes qu'on voit avec les enfants là,
les remorques, vélos cargo, ce qu'on appelle les biporteurs, donc quand on a la charge devant, ou les long tail, les arrières longs, où on a les enfants derrière aussi. Donc on est plutôt sur des engins comme cela.
Je vous arrête. Alors, longue taille, les enfants devant, derrière. Dites-nous. En fait, oui, parce qu'on a une image de ça. Mais donc vous faites des vélos où il y a les passagers qui sont à l'arrière, c'est ça ?
On fabrique actuellement, là, en ce moment même, un véhicule où il y a 5 personnes qui peuvent monter dessus, un vélo à 5 personnes.
Ah oui, et tout le monde pédale ?
Non, il n'y a qu'une seule personne qui pédale, mais on peut être soit deux adultes, deux enfants, ou soit quatre enfants, un adulte, sur un seul vélo. Ouais. Donc c'est plutôt des solutions de mobilité de famille ou du quotidien.
C'est ce qu'on trouve parfois d'ailleurs en Asie, dans les grandes villes d'Asie ou d'Afrique, avec
les
pousse-pousse, les rickshaws, c'est ancêtre en fait.
C'est ça, sur nos territoires, on a plutôt des Rosalie ou des choses comme ça. On est un peu dans le renouveau de la Rosalie avec l'électrification et toute aussi la volonté des utilisateurs à un peu diminuer leur utilisation de l'automobile avec des déplacements courts. Qui nécessite pas forcément l'auto, mais qui nécessite des véhicules qui nous permettent quand même de faire quelques kilomètres.
C'est drôlement providentiel quand même, à Lourdes, finalement, d'avoir une entreprise spécialisée dans la mobilité et dans le vélo, et de rencontrer en fait l'hospitalité de Notre-Dame de Lourdes, qui a besoin aussi, qui constate en tout cas la vétusté de son parc de voiturettes bleues, parce qu'elle date de quelle année, Daniel Peset ?
Alors oui, l'origine, c'est fin 19e, début du 20e siècle, les toutes premières voitures adaptées vraiment au sanctuaire. Et elles avaient presque 60 ans quand un hospitalier de Lourdes, qui s'appelait Monsieur Aumont, et qui lui, dont c'était le métier, l'industrie du vélo, déjà, il avait une entreprise à Nantes, et en revenant de Lourdes, il s'est dit, il faut que je trouve un produit qui soit un peu mieux que la petite voiture qui est en place. Et ben, c'est celle qui roule aujourd'hui, c'est notre parc actuel. Donc il a construit du costaud et du durable, mais maintenant, il est temps de renouveler. Quoi.
C'est vrai qu'au sein de l'hospitalité, il y a un garage, je crois, qui est dédié à la réparation des voiturettes bleues. Ça veut dire que là, elles sont plus réparables.
Non, nous avons un service, c'est l'atelier Saint-Michel, avec des hospitaliers qui s'y connaissent un peu, qui sont des manuels et qui arrivent à tout réparer, et en particulier de réparer les voitures bleues quand elles le sont. Parce que parfois, justement, du fait de l'âge, on va plutôt prendre des pièces sur des vieilles voitures pour pouvoir réparer d'autres. C'est pour ça que le parc diminue peu à peu. Oui, il était à plus de 1000 autrefois, il est maintenant à peu près à 800 parce qu'il y a des voitures qu'on ne peut plus réparer.
C'est colossal, 800 voitures bleues. Il faut aussi les parquer, etc.
Oui, ça nécessite un entretien, du stockage qui a. Il y en a à peu près 500 sous l'accueil Notre-Dame et 300 à l'accueil Saint-Fray.
L'accueil Notre-Dame, l'accueil Saint-Fray, c'est des établissements médicalisés qui sont reçus le temps du pèlerinage des personnes malades et handicapées, Anne Deslois.
Ça veut dire en fait que pendant certains pèlerinages, il y a des pèlerins qui sont dans leur propre fauteuil roulant et puis des personnes qui sont plutôt fatiguées ou qui ne peuvent pas trop se déplacer, qui louent, parce que vous les louez en fait ces voiturettes.
En fait, on demande une participation aux pèlerinages qui sont présents. C'est une participation à l'entretien. Voilà, mais en fin de compte, les voitures telles qu'elles sont stockées dans ces accueils médicalisés, elles sont en libre-service.
Oui.
Voilà, elles sont en libre-service.
Et pour bien comprendre, ça ne sert pas aux personnes handicapées physiques, parce qu'il faut quand même pouvoir monter sur la petite voiture.
Tout dépend des handicaps. Il y a beaucoup de pèlerins malades qui arrivent avec leur propre fauteuil électrique, donc ils conservent ce même fauteuil électrique pendant tout leur pèlerinage. Là, c'est donc pour des personnes qui peuvent quand même monter, ou enfin que l'on aide à monter dans la voiture, ou des personnes tout simplement fatiguées. Voilà.
Daniel Peset, racontez-nous quand même l'histoire de cette rencontre. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ces deux mondes qui semblent tellement différents, mais qui se réunissent autour de la petite reine, j'ai envie de dire.
Tout d'abord, je veux dire, Lourdes, enfin notre sanctuaire, c'est un lieu de rencontre. Hein, ça a commencé par Marie et Bernadette. Mais je veux dire, c'est vrai, il y a toujours des rencontres qui sont inattendues. Alors, il y a plus d'un an, donc Madame la secrétaire d'État pour l'accessibilité est venue voir, constater au sanctuaire quels étaient nos moyens. Donc, dans la visite, il y avait devant cet accueil Notre-Dame un certain nombre de véhicules qui étaient présentés, dont un bus de l'hospitalité, puisqu'on transporte les pèlerins malades de la gare ou de l'aéroport jusqu'au sanctuaire. Et puis aussi, un exemplaire d'une voiture bleue. Et là, en présentant à Madame la secrétaire d'État et au préfet, j'ai ajouté qu'on avait un parc qui commençait à être un peu vétuste. D'ailleurs, il n'y a pas besoin que je lise, ça se voit tout de suite. et là, le préfet, aussitôt, a rebondi en disant « Mais je connais une entreprise dans les Hautes-Pyrénées qui pourrait vous aider, je vais vous mettre en relation ». Et puis, rendez-vous a été pris très rapidement et la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées a appelé très rapidement le directeur du sanctuaire, M. Guillaume de Vulpian. Et avec M. Guillaume de Vulpian, nous avons pris rendez-vous auprès de Thomas Lecomte.
Voilà. Alors, Thomas Lecomte, et puis aussi pour vous, hein, Louis d'Aricade, quand on voit arriver le sanctuaire à la Bardonnaise dans l'entreprise, comment on réagit? Comment avez-vous réagi?
On découvre, un fonctionnement, parce que le sanctuaire, on le connaît par son symbole, mais c'est vrai qu'on découvre le fonctionnement, donc ça a été vraiment une découverte. Après, techniquement, sur le véhicule, et Louis en parlera certainement bien mieux que moi, on n'avait pas vraiment d'a priori technique, c'est un châssis tubulaire roulant. Comme un vélo, c'est ses points communs, et on se sentait vraiment capable d'apporter une solution de fiabilité et de remplacement autour de ce sujet-là. Donc on s'est très très vite, on va dire, accordé sur les besoins et sur l'objectif de ce renouvellement pour que tout de suite on se mette au travail et qu'on puisse mettre à dispo les deux premiers prototypes roulants qui roulent maintenant depuis quelques semaines maintenant en test.
Est-ce que le look est différent des voiturettes qu'on connaît depuis belle lurette?
Oui, parce qu'il y a un prototype qui a été réalisé alors.
Mais il y avait un cahier des charges avant.
Ah.
Oui.
Bon, de façon à définir quel était le produit.
Oui. Quelles contraintes ont été soumises à l'entreprise Mille?
La première était la couleur.
Ah oui, il fallait qu'elle reste bleue.
Oui, il fallait qu'elle reste bleue. Oui. Le même bleu. Attention, il fallait que ce soit le même bleu. Parce que vraiment, on ne pouvait pas habituer les pèlerins et d'autres. Et puis la deuxième, c'était aussi la surface au sol. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on compte... Enfin, voilà, la longueur, la largeur, il fallait... Parce que le sanctuaire, notamment la basilique Saint-Pédis, ou même la conque de la grotte, sont adaptés à des véhicules d'un certain gabarit. Mmh. Si aujourd'hui, quand on construit une nouvelle voiture, elle est forcément plus grosse que l'ancien modèle, voilà. Donc on aurait tendance à augmenter, etc. Donc c'était très important. Et là, il n'y avait aucun problème. Après, les autres, dans le cahier des charges, c'était améliorer tout ce qui était sécurité et aussi le confort. Donc la sécurité, quand même, dirais-je, Louis pourrait en dire plus que moi.
Louis, quel a été votre constat quand vous avez vu une voiture bleue de Lourdes? Vous avez vu tout de suite les pistes à améliorer?
Alors, comme l'a dit Daniel Peset, hein, il n'y a pas besoin de dire qu'elles sont vétustes pour s'en rendre compte. On a assez vite identifié le problème, même si c'est honnêtement une prouesse d'avoir un véhicule qui, après 60 ans, est encore capable de rouler et encore capable d'être exploité sur le site. Mais en effet, on a assez vite constaté qu'il y avait... des gains évidents à aller chercher sur la sécurité, sur le confort, également sur l'entretien, et puis aussi un challenge de se dire, c'est, voilà, nos prédécesseurs ont réussi à faire un véhicule qui a tenu 60 ans, donc il faut qu'on fasse au moins aussi bien.
La sécurité, c'est important parce qu'évidemment, ce sont des personnes qui sont fragiles, porteuses de handicap, âgées. Quelles ont été les améliorations qu'a apporté Milk sur le prototype?
Alors, sur l'aspect sécurité, on a la principale évolution, c'est l'ajout d'un système de freinage. Même si sur les voitures qui sont actuellement en exploitation, il y a un système de freinage qui a été rajouté il y a quelques années. Là, on a ajouté un système de freinage qu'on a voulu vraiment performant et pour, disons, immobiliser les véhicules. Parce que même si c'est des voiturettes, en fait, elles passent finalement beaucoup de temps à l'arrêt dans le cadre d'une messe, dans le cadre d'un pèlerinage, il y a un nombre important de moments où ces voitures sont à l'arrêt. Donc, on a jugé important que le véhicule reste immobilisé, en fait, qu'on ne puisse pas avoir un véhicule qui parte tout seul parce que...
Ah oui, parce que le sol n'est pas plat, voilà, c'est un peu de pente, c'est ça. Donc, parce qu'en fait, il n'y a pas de freinage. Aujourd'hui, c'est l'hospitalier qui fait le freinage. Parce que c'est ces voitures, quand même, avec cette longue barre, pardon, j'ai peut-être pas le terme qu'il faut, mais
le timon.
Ouais. Oui, voilà, c'est vrai. Avec le timon, finalement, les freins, ce sont un petit peu les pieds de l'hospitalier.
Il y a un petit frein extérieur, quand même.
Voilà, il y a un frein de...
C'est un frein de parking, plutôt qu'un frein...
Ah oui, c'est ça.
Donc voilà, l'idée c'était de conserver cette fonction, de pouvoir garder le véhicule arrêté à un lieu donné, mais aussi de pouvoir aider l'hospitalier à ralentir la voiture dans les pentes. Ouais. Puisqu'on l'a vu, hein, au sein du sanctuaire, il y a des endroits où il y a des pentes quand même assez importantes, surtout quand on tracte un véhicule qui a son poids propre plus
le
poids de la personne dedans. Donc voilà, on augmente donc la sécurité, le confort, mais aussi le confort de l'hospitalier, ou en tout cas de la personne qui tracte le véhicule ou qui pousse le véhicule.
Daniel Pezet, au sanctuaire, il y a des passages difficiles avec les voitures bleues, parce qu'on est quand même dans les montagnes, donc il y a un peu de relief au sanctuaire de Gaume.
Justement, après le cahier des charges, la société Milk est venue sur place pour voir justement identifier les difficultés, notamment les rampes de Saint-Pédis ou les virages à la sortie de ces rampes. Je me souviens qu'on avait fait une journée complète pour essayer d'identifier, en interviewant même des pèlerins pour savoir qu'est-ce que vous pensez de la voiture et quels sont... Voilà, donc on avait identifié tous ces soucis-là.
Thomas Lecomte. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose?
Non, c'était pour nous, c'était essentiel à rendre en parallèle du cahier des charges très technique constaté historiquement, de venir faire une immersion justement pour comprendre l'utilisation, comprendre les besoins, comprendre les difficultés techniques du site, parce qu'ils sont censés être utilisés que sur ce site. Et donc justement, pour pouvoir critiquer ce cahier des charges et dimensionner nos améliorations comme il faut, donc l'immersion était inévitable. On a refait une séquence de tests autour, une fois qu'on a eu dimensionné les premiers prototypes, pour s'assurer que nos dimensionnements étaient corrects. Donc voilà, c'était très important pour nous de venir tester en situation réelle cette future voiturette.
C'est pas rien de venir faire une immersion dans le sanctuaire de Lourdes, tester, parce que oui, ce n'est pas qu'une approche industrielle, il y a quand même aussi l'approche d'un bien-être aussi de la personne, d'un respect aussi de ce qu'elle... Comment vous avez vécu ça?
Alors, en fait, on le vit en vélo, tout ça. Parce qu'en fait, les gens, quand ils achètent un vélo, ils achètent un objet avec lequel ils ont un historique, un passif, tout le monde sait quand il a appris à faire du vélo. Oui. Et donc, en fait, ce plaisir de l'utilisateur final, dans le vélo, il est là tout le temps. Et donc là, en gros, ben, on retrouve cet esprit-là. En fait, l'enjeu, il est que le pèlerin se sente bien et que l'utilisateur hospitalier se sente bien aussi pendant le pèlerinage. Donc, c'est une belle vraie similitude avec le vélo. Ouais.
Anne Deslois.
Et oui, moi, ça me fait penser. J'ai souvent rencontré des jeunes hospitaliers très joyeux, justement, de participer à ce service pour emmener une personne d'un endroit à l'autre dans le sanctuaire. Parce qu'il y a quelque chose d'assez sympathique, soit quand on tire la personne, enfin la voiturette, ou qu'on la pousse, parce que bien souvent, on est à deux ou trois autour de la personne pour manier, disons, cette voiturette. Et c'est souvent des parties de rigolade entre eux. Et quand on voit de temps en temps des voiturettes qui sont vides, enfin bon, qui sont en attente, c'est rare qu'il n'y ait pas des jeunes qui se mettent dessus et qui font leur petit tour, qui s'amusent avec l'actuelle voiturette. C'est toujours un bon souvenir pour eux.
Ça vous fait sourire, ça, Daniel Peset.
Oui, parce que...
Ils n'ont pas le droit.
Non, mais on fait attention, surtout avec ce parc un peu vétuste. C'est pas fait pour jouer, quoi. Mais ceci dit, je vous rejoins totalement sur la bonne humeur qu'il y a lorsqu'il y a ce contact entre l'hospitalier et la personne malade.
C'est très beau.
Louis Daricade, on a parlé de sécurité. On a parlé aussi du poids. Est-ce qu'il a été nécessaire de revoir aussi les matériaux aujourd'hui? Je n'ai malheureusement pas les bons termes, mais je crois qu'il y a fibre de carbone. Enfin, on fait des vélos dans plein de matières différentes. Est-ce que vous avez été là innovant aussi sur le matériau utilisé?
Alors, d'un point de vue des matériaux, je pense qu'on n'a rien révolutionné. Par contre, il y a un état de fait, c'est qu'en 60 ans, les matériaux ont énormément évolué. On a des matériaux beaucoup plus performants aujourd'hui que ce qui pouvait se faire il y a 60 ans. Donc la base reste la même, hein, c'est toujours de l'acier qui est utilisé pour le châssis, mais on a des matériaux plus performants, on a fait des tubes, on a utilisé des tubes avec des sections plus importantes, plutôt pour des raisons esthétiques pour le coup. Mais oui, sur les matériaux, voilà, y a beaucoup d'évolutions. On va retrouver nécessairement un peu plus de plastique que ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. On a quand même fait gaffe à sélectionner des matériaux de qualité. Hein. On a toujours cette contrainte que ça doit assurer 60, que les nouvelles voitures doivent durer
Ah oui, ça
longtemps.
C'est le défi que vous vous êtes mis, hein, de vous projeter dans le temps.
C'est un défi obligatoire par le contexte actuel et les différents enjeux qu'on affronte. Pour nous, encore une fois, les utilisateurs vélos essayent au quotidien de réduire leur empreinte environnementale et l'enjeu de concevoir des véhicules pour qu'ils soient jetés au bout d'une période donnée est quelque chose qui nous dépasse et sur lequel on n'a pas envie du tout de travailler. Là, aujourd'hui, prendre le défi d'essayer de maintenir et de reproduire un véhicule pour la même utilisation qui va durer aussi longtemps que le précédent, c'est un défi qu'on aime bien. Tout ça s'accompagne évidemment d'un accompagnement sur l'entretien de ce parc et toutes ces choses-là. Mais on est à une trentaine de kilomètres. C'est une proximité qui va permettre aussi de rendre ce produit durable.
Deux prototypes ont été réalisés. Ils ont été présentés le 11 février dernier à l'occasion du congrès, les Journées de Lourdes, qui rassemblent tous les organisateurs de pèlerinage. C'était un peu la période test. Daniel Peset, c'était là l'occasion de montrer un peu à toute la communauté d'hospitaliers de Lourdes ces nouvelles voitures. Comment elles ont été reçues?
Ça a eu un sacré succès. Hein. D'abord parce qu'il y avait la curiosité, en disant, voilà la nouvelle voiture bleue. Alors que, donc il y avait des dizaines d'hospitaliers qui regardaient de près et puis qui critiquaient.
Ah oui.
Alors, en disant, il faudrait améliorer telle ou telle chose, les coussins. Et nous, hospitaliers de la chaîne DL, on prenait note.
Ah oui, c'est des avis d'experts, ça. C'est des années d'utilisation aussi, c'est précieux.
Et oui, en comparant par rapport à l'ancien modèle, ça a été très utile, à la fois pour nous, pour la société Milk, d'avoir un regard critique. Mais surtout, ça permet aussi de faire connaître, quoi. Et en disant, non seulement on fait des prototypes, mais on va pouvoir les proposer aux différentes associations, voire à des particuliers. Enfin, voilà.
Oui, évidemment, faire connaître. Et puis également participer, on l'imagine, au financement. Est-ce que c'est possible, en fait, d'avoir une ordre d'idée, en fait, du coût de l'investissement pour l'hospitalité?
Oui, parce que le prix qui a été arrêté, le prix, la livraison, hein, c'est 2 200 € l'unité, la voiture bleue, y compris le marquage, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les anciennes voitures, vous le savez, c'était aussi ces voitures ex-voto, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre le nom d'une personne de sa famille ou d'une association, et donc les 800 voitures bleues
portent une plaque le nom en fait du donateur,
Donateur, ou parce que en souvenir de son grand-père qui venait à Lourdes régulièrement, on a mis le nom du grand-père et venant de tous les pays. Hein. Et donc, c'était aussi dans le cahier des charges, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi cet emplacement. Ça a été effectivement très apprécié de tous. Et donc, y compris, je disais, donc, le marquage qui est demandé par l'association ou le particulier, 2 200 €. Alors, comment c'est financé? comme beaucoup de choses à Lourdes, hein, oui. C'est-à-dire qu'on demande l'aide pour le financement de donateurs.
Vous avez déjà reçu le financement pour les premières voitures ?
Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, d'abord, je voudrais dire que c'est bien de faire, mais il faut aussi faire savoir. Et j'en rends hommage au service communication du sanctuaire qui nous y aide beaucoup par se faire savoir parce qu'il fallait non seulement aux hospitaliers qui venaient en février, mais dans le monde entier faire savoir ce genre ce projet. Et donc ça a permis d'avoir dans un premier temps de nombreux messages qui demandaient des précisions, qui demandaient bien sûr le prix, mais savoir les délais, etc. Et puis ensuite des commandes fermes. Et là, toute occasion est bonne. C'était le cas du dernier week-end avec le pèlerinage de l'Ordre de Malte, qui a été très intéressé par le projet et qui devrait, dans de très prochains jours, faire des commandes fermes.
Donc, on peut malgré tout lancer un appel à nos auditeurs. Il est possible, ce n'est pas réservé qu'aux associations de pèlerinage, est-ce qu'un particulier qui est attaché à Lourdes, qui a envie, dans cette démarche d'ex-voto, d'adresser un remerciement, pouvoir faire poser son nom sur une prochaine voiture ?
Ah oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est une belle idée, je trouve, de savoir qu'on va offrir et qu'on va concrétiser un don en permettant à des pèlerins malades de faire un pèlerinage le mieux possible. Et puis aussi de garder le souvenir d'une personne qui a été chère, qui nous a été chère en mettant son nom sur une voiture. Ouais.
À Lourdes, on appelle ça des ex-voto. Mais pour Milk, ça vous donne des idées, cette personnalisation de vos produits?
C'est quelque chose sur lequel on excelle déjà.
Ah oui?
Nous, ce qu'on appelle la différenciation retardée, c'est le terme barbare qu'on utilise. On a beaucoup de clients qui vendent du service aux consommateurs en disant « choisissez votre couleur, choisissez votre montage, choisissez... les pneus, choisissez l'équipement que vous voulez mettre sur votre vélo. » Et nous, c'est un service que l'on sait bien faire. Cette proximité avec l'acte de vente de nos clients, donc qui sont des marques de vélos. Et voilà, en ce moment, Louis gère un projet où tous les mois, on assemble 4 vélos de 4 couleurs différentes parce que les clients ont choisi des couleurs sur un catalogue de couleurs. Quoi. Donc la différenciation retardée est vraiment quelque chose qui nous caractérise dans cette industrie. Ouais.
Est-ce que ce premier prototype, Daniel Peset nous l'a dit, avec des avis d'experts hospitaliers depuis longtemps, est-ce que ça a fait changer finalement la voiture définitive, en tout cas la prochaine? Quels ont été les correctifs apportés?
Oui, tout à fait. Il y a eu, donc suite aux journées de Lourdes, comme le disait Daniel Peset, on a eu un rapport un peu des critiques qui ont pu être émises, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. Et en fait, c'est un retour qui a été très riche pour nous, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer d'ailleurs. Mais c'est un retour qui a été très riche, parce que comme vous le dites, hein, c'est finalement les utilisateurs qui sont le mieux placés pour critiquer les solutions qu'on a imaginées. Donc on a fait quelques évolutions, notamment les dimensions des assises, les dimensions de la plateforme pour les pieds, voilà, quelques évolutions, la taille de la capote aussi. Des choses qu'on a ajustées, pas de changements énormes entre les premiers prototypes.
Vous n'avez pas ajouté un rétroviseur, parce qu'il doit avoir quelques demandes farfelues ou pas? Non, pas du tout.
Je pense qu'il y en a sûrement eu, mais elles ont peut-être été filmées.
Elles ont été triées par l'hospitalité oui, avant de vous les soumettre, c'est peut-être.
Non, mais je me rappelle de entre 20 et 30 points de remarques, mais qui ouais. sont d'une. Enfin, voilà, c'est très précieux pour nous, concepteurs. Malheureusement, enfin. On n'utilise pas cette voiture à tous les jours. Et donc, ça a à voir, ce pôle de remarques et ce pôle de retour a été inévitable pour qu'on touche bien tout de suite et avec un véhicule qui correspond à l'attente. Ouais.
Après l'été, c'est 25 voitures qui seront livrées, les 25 premières voitures bleues livrées à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Avant de livrer, il y a besoin que le véhicule soit homologué? Est-ce qu'il faut qu'il y ait le fameux CE, je ne sais pas, sur la voiture? Comment ça, hein, quelle certification on peut aller chercher pour à la fois rassurer aussi les membres de l'hospitalité, rassurer les utilisateurs? Comment ça se passe? Est-ce que ces voitures sont certifiables?
Tu es vieille. Comme tu veux. C'est un sujet sensible parce que.
Ils se regardent tous les deux. C'est pour Thomas Lecomte.
On va faire des démarches.
En fait, il n'y a pas de cadre normatif identifié existant pour un véhicule comme celui-là. On a d'un côté, nous, un cadre normatif qu'on maîtrise vraiment sur la partie vélo, vélo cargo et tous ces déplacements-là, un cadre normatif existant auquel tous les produits qui sortent de chez nous doivent correspondre à ce cadre normatif. De l'autre côté, on a celui des fauteuils roulants, qui est très identifié. Mmh. Et en fait, on a ce qu'on appelle une homologation machine qui peut se structurer à notre demande en prenant, en piochant les intérêts d'une norme et des autres. Donc aujourd'hui, on s'oriente vers cette certification machine qui a pour valeur d'aller chercher les besoins d'une assise, notamment dans les fauteuils roulants, d'avoir les besoins de freinage potentiel ou de résistance à plein de sujets de cadres normatifs avec lesquels je ne vais pas vous embêter. Mais en tout cas, l'objectif, il est d'aller chercher des éléments de repère sur des cadres normatifs existants pour qu'on adapte notre propre certification machine à la voiture aide lourde. Cette certification machine, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas certifiante, mais c'est quelque chose qu'on s'est obligé à faire pour que justement le niveau de sécurité que l'on veut ajouter soit bien présent et qu'en cas d'accident, on ait des choses à dire et des choses à justifier derrière.
Anne Deloy.
Oui, Daniel, vous connaissez d'autres pèlerinages, d'autres sanctuaires plutôt en France ou à travers le monde qui mettent aussi à disposition de leurs pèlerins fragilisés ce style de véhicule ?
Non.
Parce que non. Ça va peut-être donner des idées à certains et puis peut-être bons points pour mille que tout ça.
N'hésitez pas.
J'en serais heureux, mais non, je ne connais pas. Sanctuaire de Lourdes, c'est vraiment le seul qui reçoit... Oui. Des malades et des personnes handicapées et qui est tourné essentiellement vers eux, oui. À la fois par la présence de nos accueils médicalisés, mais aussi par ces moyens de locomotion.
Ce qui fait vraiment que la voiturette bleue, elle fait partie vraiment du patrimoine du sanctuaire. Ça, c'est extraordinaire.
C'est exact. Oui, tout à fait. Et puis, en plus, ça va perdurer.
Daniel Peset, peut-être une dernière question. Évidemment, c'est beau d'avoir de belles voiturettes bleues. C'est encore plus beau, je pense, de pouvoir avoir des personnes malades qui puissent s'y asseoir à l'intérieur, d'avoir des hospitaliers aussi qui les tirent. Quels sont les défis qui sont face à l'hospitalité de Notre-Dame-de-Lourdes aujourd'hui ?
Les défis, c'est de toujours... le défi principal, c'est notre mission, c'est de pouvoir servir le sanctuaire et les pèlerins le mieux possible. Et je veux dire, c'est toute la saison, plus que toute la saison. Enfin, toute l'année, parce qu'on a des pèlerinages toute l'année. Et puis aussi, je dirais, un défi supplémentaire, c'est aussi les pèlerins individuels malades. C'est-à-dire ceux qui viennent, qui ne peuvent pas venir avec un pèlerinage, parce que c'est trop long, parce que c'est trop cher, parce que ça ne correspond pas à leur date de disponibilité, mais qui viennent pour 2 ou 3 jours. Et donc là, il faudrait que, vis-à-vis de ces pèlerins individuels malades, on puisse à la fois proposer non seulement des hospitaliers qui vont les accompagner avec les voitures bleues, mais aussi leur proposer la facilité de soins, de repas, d'hébergement pour 2 ou 3 nuits. Voilà, ça c'est un défi à mon avis majeur, puisque les pèlerins individuels, ce qu'on appelle les pèlerins individuels, c'est-à-dire des familles, des petits groupes, c'est 80% de nos pèlerins.
C'est beau de se dire que derrière ces voiturettes bleues, c'est tout un monument de charité aussi qui est derrière. C'est beau aussi de voir l'hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes aller chercher de l'innovation et en plus près de chez nous.
Oui.
Voilà, Milk Made in Le Coin à la Barbe de Nest. Peut-être une dernière question pour vous, Thomas Lecomte. Très rapidement, vous avez des super t-shirts. Ceux qui sont à la radio, vous regarderez ça sur les réseaux sociaux, mais vous avez plein de logos sur vos t-shirts. Il y en a un, c'est 1000 qu'on a parlé. Il y en a un autre.
C'est Antidote Solutions, notre bureau d'études qui est intégré à nos services. Et le dernier, c'est We Are Parts qui nous permet d'acheter tous ces composants vélo qui viennent encore de très loin sur la planète et de partout, mais qui nous permet de monter les produits localement.
Louis Darcat est pas mal aussi votre t-shirt. Alors vous, c'est tous les triporteurs, etc. Tout ce qu'on s'est dit. Il y a beaucoup d'innovations avec Milk à la Barthe de Nest dans les Hautes-Pyrénées. Vous l'avez entendu, c'est un appel qui est ouvert à tous. Il est possible dès maintenant de pouvoir appeler l'hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes, pouvoir être mis en lien, échanger sur un projet et pourquoi pas, donner le nom d'une personne qui vous est chère, de votre famille. En tout cas dans un acte de dévotion, de remerciement, que d'apposer un nom sur la voiturette bleue. 2 200 €, on a dit, chacune des voitures. Alors 25 seront livrées dès la rentrée de septembre. Peut-être qu'elles seront présenté au pape. Hein. On attend ici encore la date officielle qui sera certainement communiquée par le Saint-Siège très bientôt. Donc ça, quand ça sera fait, vous viendrez nous en reparler. Et en tout cas, ben oui, c'est plus de 800 voitures, quasiment 1000 voitures aides bleues. Donc voilà, aussi un bel avenir de charité en face. Merci beaucoup d'être venu nous parler
Merci
de ces voitures
aides
bleues, de ce patrimoine de Lourdes.
Merci.
Et puis, chère Anne, nous on se retrouve une prochaine fois.
Oui, bah, d'ici là, j'aurais peut-être pas essayé la nouvelle voiture aide bleue, mais j'espère bien pouvoir le faire dans l'été.
Bon, oui, mais vous allez tirer un petit peu la voiture là.
Oui, ça serait bien. Faire ça. Avec Léon 14 dedans.
Merci
David.
Tous et à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Merci.
L'heure de pointe, David Torchala.